Bonsoir. Le gouvernement congolais accepte toute collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dans les enquêtes sur toutes les violences survenues dans l'espace kasaïen. Déclaration de la ministre congolaise des droits humains qui précise que le gouvernement va garder la direction de ces enquêtes. Cette réaction intervient après la menace du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme d'ouvrir une enquête internationale sur les massacres au Kasaï s'il ne recevait pas du gouvernement des réponses appropriées. Comment analyser cette situation? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Maître Henri Wemboloa. Bonsoir, Maître.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Vous êtes analyste et coordonnateur du réseau de protection des défenseurs des droits de l'homme, des victimes, des témoins et des professionnels des médias. Jean-Maubert Nsenga, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Vous êtes chercheur sur la RDC pour Amnesty International. Il vient de faire son entrée dans ce studio, monsieur Yves Kisombe, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-ministre honoraire des Affaires étrangères. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les Nations Unies menacent d'ouvrir une enquête internationale sur les massacres du Kasaï central en RDC. Selon le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, au plus tard ce jeudi, si le gouvernement congolais ne donne pas de réponse appropriée pour une enquête conjointe, la création d'un mécanisme d'enquête internationale sera déclenchée. Zeid Raad Al-Hussein l'a déclaré mardi dernier à l'ouverture de la 35e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Jeff Ngoy nous résume ici ses propos.
Monsieur Hussein réclame depuis mars la création d'une commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme sur les violences en RDC après la découverte notamment des charniers. À l'issue de chaque session du Conseil, 47 États membres peuvent décider à travers l'adoption des résolutions de diligenter des enquêtes internationales comme il en existe pour la Syrie. La pression exercée par Hussein sur la RDC intervient alors que des ONG notamment Human Rights Watch exigent avec persistance l'ouverture d'une l'enquête sur les violences meurtrières commises depuis septembre au Kasaï, dans le centre de la RDC. Lundi, les États-Unis ont appelé également les Nations Unies à créer une commission d'enquête sur les meurtres en mars de deux experts de l'ONU qui cherchaient à prouver l'existence de fosses communes dans le pays. C'est depuis le mois de septembre que la province du Kasaï est secouée par la rébellion de Kamuina Nsapu, chef traditionnel tué en août 2016 lors d'une opération militaire après s'être révolté contre les autorités de Kinshasa. D'après l'ONU, ces violences ont fait plus de 400 morts et causé le déplacement d'environ 1 million de personnes.
Merci Jeff Ngoy. Et à ce propos, le gouvernement congolais dit accepter toute collaboration du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dans les enquêtes sur toutes les violences survenues dans l'espace kasaïen. C'est ce qu'a déclaré la ministre congolaise des droits humains dans une interview exclusive accordée à Radio Kapi. Marie-Ange Mouchobekwa est au micro d'Étienne Kalema.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a rien à cacher et que nous restons ouverts à tout appui technique, logistique et que si l'ONU voudrait nous envoyer des experts en appui aux enquêteurs congolais pour mettre la lumière dans l'assassinat de Sharpe et Catalane ainsi que d'autres Congolais qui ont été lâchement assassinés par les miliciens de Kamuina Nsapu, ces équipes seraient les bienvenues. Mais je souligne que le gouvernement de la République démocratique du Congo va garder la direction des enquêtes.
Si je comprends bien, il est hors de question que la République démocratique du Congo accepte une commission d'enquête indépendante.
Ce sont les mots que vous utilisez, des mots très forts. Nous disons que nous acceptons la collaboration, nous acceptons que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme vienne en appui aux équipes d'enquêteurs de la République démocratique du Congo, mais le gouvernement de la République démocratique du Congo garde la direction des enquêtes.
Merci Étienne Kalema. Yves Kisombe, vous êtes vice-ministre honoraire des Affaires étrangères. Pourquoi, selon vous, le gouvernement congolais a-t-il cédé à la pression des Nations Unies?
Je ne pense pas qu'il faille prétendre cela. Le gouvernement de la RDC, tel que j'ai pu l'observer, n'a pas cédé à une quelconque pression. Madame Mouchobekwa dit très bien les choses, à mon sens. La collaboration acceptée, d'ailleurs l'idée ne date pas de cette demande de M. Al-Hussein. L'idée de s'ouvrir à des appuis internationaux pour élucider un phénomène criminel, pour élucider des exactions éventuelles commises par des éléments des forces de l'ordre et de défense, des forces de sécurité et de défense, voulais-je dire, je ne pense pas qu'un gouvernement responsable, des institutions responsables, puissent s'y opposer. Il n'y a pas de raison. Donc, il n'y a pas de pression. Il y a la confirmation, à mon sens, d'une ouverture de principe. Parce que, si vous permettez, quels sont les faits en un mot ? Vous avez un phénomène criminel de type terroriste, manifestement, qui a surgi au départ, n'est-ce pas, d'une espèce de conflit traditionnel, de conflit coutumier avec un chef coutumier et les autorités locales, et sur fond de conflit, j'allais dire, teinté peut-être d'un peu de politique peut-être. Mais ce qui est certain, c'est que les choses s'enflamment très rapidement et des assassinats, des crimes odieux sont commis envers des citoyens. Dernièrement encore, j'ai parlé avec des religieux, des prêtres catholiques, mais d'autres religieux, qui ont dû quitter la région, précipitamment, la région du Kassai, parce qu'un peu comme avec le phénomène Bundudia Congo, il y avait comme ça cette chasse aux religieux, n'est-ce pas ? Et donc, et à d'autres couches de la population. En même temps, comme vous avez pu l'observer, les assaillants, les terroristes kamikazes sont, lorsqu'ils ne sont pas tués par leur propre action, ils sont pratiquement face à une situation de légitime défense de la part des forces de l'ordre. On l'a vu en France, en Angleterre récemment. Les assaillants sont systématiquement tués pour des raisons d'efficacité. Ils sont systématiquement tués. Donc, il a pu arriver que les forces de l'ordre...
C'est quand même depuis mars que le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme réclame cette enquête internationale. La réponse de la RDC ne vient pas tardivement.
Non, pas du tout. Mais attends, la réponse de la RDC, je pense que vous avez suivi à plusieurs reprises, le gouvernement de la RDC expliquait qu'il n'y a pas de problème fondamental de fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais. Les institutions judiciaires fonctionnent en RDC, et en particulier la justice militaire, que celle-ci est mise en branle depuis le début de ce phénomène, et partout sur le territoire national, aussi bien pour le terrorisme qui sévit à l'est du pays, avec cette forme particulière de tuerie de population civile à Beni, etc., et partout en RDC où la justice militaire doit intervenir, elle intervient. Donc il n'y a pas de problème structurel, il n'y a pas... Mais maintenant, c'est vrai que nous n'avons pas toujours les moyens de police scientifique, les moyens techniques, les moyens financiers, les moyens logistiques, et donc des apports dans ce sens-là. Parce qu'en termes de compétences, je vous rappelle que c'est un Congolais, un magistrat congolais, qui a été choisi par la communauté internationale pour exercer les fonctions de procureur spécial près la cour spéciale, la cour pénale spéciale centrafricaine. C'est le colonel Mutanzini. Voilà, donc c'est une fierté. Donc les compétences ne manquent pas en RDC. Maintenant, la logistique, le financement peuvent être complétés effectivement par une assistance internationale, même sur le plan judiciaire, alors, sur le plan des compétences, on peut nous appuyer. Et c'est ce que Madame la ministre des droits humains rappelle très justement.
Alors, puisque vous avez toujours la parole, les compétences ne manquent pas, mais qu'est-ce que vous entendez, comment vous comprenez ces phrases du gouvernement congolais qui qui se dit ouvert, mais qui en même temps veut garder la direction de cette enquête.
Mais parce que nous sommes un pays souverain. Est-ce que pour résoudre les différents attentats terroristes tels qu'ils se sont déroulés, les enquêtes qui ont lieu à Paris, à Londres maintenant, à Bruxelles, aux États-Unis, est-ce que il y a un problème de coopération internationale qui se pose? Non, c'est la même chose. Ces gouvernements acceptent volontiers l'appui des pays amis.
Merci.
Mais on fait confiance à leur justice d'abord et avant tout. Pourquoi devrait-il en être autrement pour la RDC?
Merci. Je reviens à vous tout à l'heure, Monsieur Yves Kisombi. Jean-Maubert Senga, vous êtes chercheur sur la RDC pour Amnesty International. La RDC a finalement accepté le principe d'une enquête conjointe. Êtes-vous satisfait?
Alors, bonjour Alain Hiroum. Pour commencer, le gouvernement congolais n'a pas accepté le principe d'une enquête internationale. Parce que les propos de Mme Mouchebekoa et les propos de M. Yves Kisombi, qui parlait tout à l'heure, je ne sais pas s'il parle au nom du gouvernement, ne sont pas très clairs. Ce qui est demandé, notamment par notre organisation, par Amnesty International, et par plus de 270 autres organisations, dont la plupart sont congolaises, c'est une enquête internationale, indépendante, impartiale et crédible, qui va faire une enquête en toute transparence, établir toutes les responsabilités au niveau tant local qu'au niveau éventuellement provincial ou national. Et si réellement le gouvernement, les autorités de la RDC n'ont rien à se reprocher, alors elles ne devraient pas craindre la présence d'une enquête internationale. Tout au contraire, puisque cette enquête internationale permettait de rétablir leur crédibilité, dont certains ont des raisons, semblent avoir des raisons d'éviter.
Alors, Jean-Maubert Senga, quand vous parlez d'une enquête internationale indépendante crédible, quel sens donnez-vous au contexte international?
Alors, Monsieur Kisombi évoquait tout à l'heure le principe de la souveraineté. Eh bien, la souveraineté, ce n'est pas un droit pour lequel c'est surtout une responsabilité en droit international. Un État est souverain lorsqu'il est capable de protéger ses citoyens, de protéger tous ceux qui sont sur son territoire contre les atteintes, contre les violations des droits de l'homme, y compris contre des miliciens, contre des groupes armés, des rébellions, et de faire rendre compte ses propres agents lorsqu'ils commettent des actes de violation des droits de l'homme. En l'occurrence, en RDC, on ne peut pas dire que c'est le cas. Donc, évoquer l'argument de souveraineté pour rejeter toute enquête qui viserait non pas à tuer la souveraineté, mais à la renforcer, en rendant la lumière sur les personnes qui sont responsable des exactions contre des citoyens congolais, est un argument qui ne tient pas debout. Alors, nous avons résolu de demander une enquête internationale après avoir étudié minutieusement les enquêtes que les autorités congolaises avaient commencé à mener, avaient annoncé. Après, d'ailleurs, on s'en souvient, beaucoup d'hésitation, puisque tout a commencé en février, lorsque une vidéo montrant des présumés militaires FRDC en train de tuer sur des présumés miliciens, entre guillemets, de Kamouna-Mpatou, dans le village de Mwandalomba, lorsque cette vidéo a circulé, révélée par un journal américain, eh bien, la toute première réaction du gouvernement, c'était c'est du montage, c'est une manipulation destinée à discréditer les forces armées. Et quelques jours plus tard, on a quand même annoncé qu'il allait y avoir une enquête. Et à la mi-mars, l'auditeur général des forces armées, le général Pombé, a lui-même annoncé qu'on avait arrêté cette personne dans le cadre de cette affaire de Mwandalomba. Donc on part d'un délit à une inculpation. Et il y a quelques jours, on parlait de l'ouverture d'un procès en Boudjimaï. Donc voilà un gouvernement qui réagit de façon rapide, sans enquêter, et sur base de la pression, on finit quand même par enquêter et admettre que des crimes ont pu être commis.
Alors, Jean-Maubert Senga. Jean-Maubert Senga, vous avez toujours la parole, mais je voudrais avoir un éclairage. Quand vous dites que la RDC ne remplit pas les critères d'un État souverain, seriez-vous en train de lui dénier ce statut?
Non, je n'ai pas dit qu'il ne remplissait pas les critères d'un État souverain. Je dis qu'on ne peut pas évoquer la souveraineté pour empêcher de faire la lumière sur des violations graves des droits de l'homme contre ses propres citoyens quand on est incapable, qu'on n'a pas la capacité ou la volonté de le faire.
Alors, vous parliez tout à l'heure... Vous disiez que dans notamment le procès de Manzalomba, on est passé d'un déni à l'inculpation, et vous pensez que le gouvernement congolais a des choses à cacher?
Je ne dis pas, puisque Madame Moussobeko a dit que le gouvernement n'a rien à cacher, je le crois. Tout le monde doit croire le gouvernement au mot. Mais alors, il faut être conséquent par rapport à cette affirmation et laisser une enquête internationale se tenir. Puisque dans ce qui se passe aujourd'hui au Qatar, n'oublions pas quand même que tout ça a commencé au mois d'août l'année dernière, lorsque un chef traditionnel a été tué dans des conditions non encore élucidées jusqu'à aujourd'hui. Aucune enquête n'a été ouverte dans l'assassinat de Jean-Pierre ou la mort, les circonstances de la mort de M. Jean-Pierre Mpandi, qui était le chef qui avait le titre de Kamouna Nsapu dans le Kasaï central au mois d'août. Et c'était dans des conditions, enfin tout le monde en parle. La contestation de son autorité
par
l'intérieur de l'époque, et ensuite il a été assassiné.
Jean-Maubert Senga.
On a quand même, on peut penser qu'il y a eu une implication d'une manière ou d'une autre des autorités déjà au début de ce conflit.
Jean-Maubert Senga.
Je viens de parler de Manzalomba. On a des militaires congolais qui ont été inculpés après qu'il y ait eu une forte pression de l'opinion nationale et
merci.
De la communauté internationale.
Merci Jean-Maubert Senga. Je vous redonne la parole tout à l'heure, Maître Henri Oyemboloi. Vous êtes analyste et coordonnateur du réseau de protection des défenseurs de droits de l'homme, des victimes, des témoins et des professionnels des médias. Comment vous analysez cette situation? Vous avez suivi Monsieur Yves Kisombe et Jean-Maubert Senga.
Oh, merci pour la parole. Cette situation, d'abord, il faut commencer par regretter ce qui est arrivé. Nous parlons d'une enquête pour connaître la vérité sur la mort de plusieurs personnes. Je vois il y a une ONG nationale qui parle déjà de plus de 3000 personnes décédées avec cet événement. Et donc, je m'en vais d'abord prendre ce que dit Monsieur Maître Yves Kisombe, qui considère que le gouvernement a voulu aller tout droit vers les enquêtes. On a démontré quoi sa bonne volonté. Et pour moi, je considère que quelque part, il y a eu des tergiversations. Parce que ceux qui constatent aujourd'hui que maintenant il y a des enquêtes qui sont acceptées par le gouvernement, diront, comme venait de le dire M. Jean Maubert, que c'est depuis août qu'on a connu des événements, mais il n'y a pas eu empressement pour éclairer l'opinion publique nationale et internationale sur ce qui est arrivé. Et donc, avec tout le temps de dialogue qu'il y a eu entre le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le prince Zeid Hussein, et notre gouvernement, apparemment, on peut dire qu'il y a eu quelques tergiversations, mais au finish, aujourd'hui, on peut dire que le gouvernement a accepté. Mais il apparaît, en quelque sorte, des incompréhensions
par rapport à ce qu'on entend par cette enquête mixte.
À ce niveau-là, maître, vous avez d'ailleurs raison, parce que j'allais vous poser la question. Il y a, d'un côté, on parle d'une enquête conjointe, d'un autre, une enquête internationale. Une enquête internationale, voudrait-il dire que c'est une enquête menée par les Nations Unies sans la RDC? Essayez de nous éclairer un peu sur tous ces éléments.
Une enquête internationale, c'est vrai, Monsieur Yves dit que le pays ne peut pas tergiverser pour accepter une enquête au pays. Et donc, ce n'est pas correct parce que pour la plupart des pays dans le monde, ils ont répugnance à voir des enquêtes internationales menées sur leur territoire. Ça, ce n'est pas seulement en RDC. Dans beaucoup de pays, quand il y a beaucoup de violations des droits de l'homme, il y a quelques obstacles. On ne veut pas que les autres viennent découvrir ce qui s'est passé. Et cela, surtout, lorsqu'il y a des craintes que certains responsables auraient une part de responsabilité. Ça se fait de cette façon-là.
Alors, en parlant d'enquête internationale, je voudrais avoir la précision, et c'est important pour les auditeurs qui nous suivent. Est-ce que cela voudrait dire que c'est une enquête menée par les Nations Unies exclusivement sans la RDC sur le territoire congolais?
On dit enquête internationale et il y a des équipes qui descendent sur terrain pour mener des enquêtes. Ils peuvent avoir un plan pour... ils discutent d'un plan qu'ils vont mener.
Sans se référer aux autorités congolaises.
Non, je sais que dans la pratique, il y a un travail qui se fera ensemble. Mais tout dépend si le gouvernement entend empêcher que certains actes soient posés, alors là, tout de suite, les enquêteurs vont relever que le gouvernement ne veut pas réellement qu'il y ait une enquête indépendante. Mais, au fait, s'il y a l'enquête et que les équipes sont composées, et là, nous avons les nationaux et les internationaux, un plan est fait pour les enquêtes, on cible les lieux, on cible aussi les personnes qui seront contactées et tout ça, eh bien, nous pouvons croire que on peut avoir la vérité sur les événements. Et donc, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est la transparence. Et c'est cette transparence qui permettra de dire que l'enquête a été indépendante. Dès l'instant qu'il y a des éléments qui sont des nationaux et des étrangers, eh ben, il y a déjà l'idée que c'est international. Et dire seulement que la direction c'est au gouvernement, ce n'est pas grand-chose, parce qu'on peut avoir la direction, mais on discute ensemble et on va mener des enquêtes, le gouvernement va ouvrir toutes les portes, il va permettre que partout où l'on voudrait avoir certaines informations, on puisse y arriver. C'est ça qui est le plus important et c'est ce que nous souhaitons.
Alors, Madame la ministre des Droits Humains a effectivement dit que la RDC restait ouverte, mais qu'elle gardait la direction de ces enquêtes. Pour vous, maître Henri Wembolwa, quelles sont les faiblesses et les forces d'une telle posture?
Oui, les faiblesses de cette posture, que la direction soit menée par le gouvernement. On peut dire ainsi parce que lorsqu'on parle de l'indépendance ou de la souveraineté, eh bien le pays peut être et au milieu, n'est-ce pas, et il est en train de suivre la situation. Et les équipes vont travailler ensemble et nous espérons qu'il ne faudra pas qu'il y ait de mauvaises compréhensions, même dans le cercle de ceux-là qui seront pris comme étant membres de l'équipe. Dire que non, c'est seulement le gouvernement qui a la raison ou qui connaît pour pouvoir guider, allons ça et là et n'allons pas telle part. Ça, c'est ça qui est beaucoup à éviter. Mais les équipes vont travailler de manière indépendante dès que le plan est là. Et ils sont appelés à faire le travail sur le terrain. C'est ce que nous attendons, c'est ce que nous croyons.
Merci, Maître Yves Kisombe. Il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
C'est Christian Aradia. Je vous appelle depuis la ville de Bukavu, province du sud Kivu. Je pense que si on avait un gouvernement responsable et respectable, on ne devait pas attendre que l'on soit derrière des menaces ou des contraintes pour qu'il y ait ouverture d'une enquête sérieuse avec une politique crédible. Ailleurs, quand un seul citoyen est mort dans de telles circonstances, c'est toutes les nations qui se liguent pour condamner de tels actes. Si on ne sait pas se prendre au sérieux, devrait-on s'attendre à une telle considération des autres?
J'ajoute, M. Yves Kissombé, cette réaction de Martin Bakolé de Kinshasa qui dit « De quoi le gouvernement a-t-il peur en confiant la direction de l'enquête à l'ONU, la RDC, à garder la direction de l'enquête sur les fosses communes de Maluku ? Où est le résultat ?»
Oui, j'aimerais, pour répondre très clairement à notre auditeur, dire qu'on a l'habitude maintenant, au niveau de l'opinion nationale, internationale, d'entendre les Congolais toujours fustiger leur propre pays, leurs propres institutions. En quoi un gouvernement est-il pratiquement par nature irresponsable ? Un gouvernement, c'est une institution responsable qui peut-être ne se montre pas aussi efficace qu'il le devrait sur toute une série de choses, mais on ne peut pas traiter un gouvernement d'irresponsable lorsque quelque chose d'aussi grave a lieu sur le terrain. Le gouvernement n'est pas la seule institution du pays. Donc entendons-nous bien, il y a une justice en RDC. Hein, commettez un meurtre, façon de parler, pour vous dire, vous pouvez être certain que vous n'allez pas circuler librement. Commettez un vol, il y a une justice dans ce pays. Il faut arrêter de faire croire aux gens.
Même si son fonctionnement est décrié.
Non, son fonctionnement, dans tous les pays du monde, l'appareil judiciaire connaît des problèmes, certainement dans le nôtre plus que dans d'autres, mais moins que dans d'autres aussi. Ce que je voulais dire avec ça, c'est que non. Le fait que des crimes concernent des nationaux et des étrangers en termes de victimes ne fait pas de la situation une situation internationale. C'est une situation nationale. Dans un pays, lorsque des étrangers sont tués, c'est d'abord l'affaire de la justice pénale de ce pays. Donc attention à ce que Maître Wemboloa vient de dire, c'est faux. C'est pas parce que deux étrangers ont été tués au Congo que l'affaire devient sur le plan judiciaire international. Non, pas du tout. Mais sur le plan diplomatique, sur le plan politique, nous... Et c'est pour ça que le gouvernement est impliqué. Nous devons montrer notre esprit de collaboration, d'entraide, sans aucune difficulté. Maintenant, la situation, la chose, le problème, la problématique est tellement grave. Il s'agit ici, comme l'a dit Maître Wemboloa, comme l'a rappelé aussi Monsieur Nsenga, il s'agit ici de centaines, peut-être de milliers d'êtres humains tués, assassinés. Donc moi, je n'ai pas de discours partisan. On vient parler sérieusement. Et je dis, quand on parle d'enquête internationale, il est inéquitable de dire qu'un gouvernement ne peut refuser une enquête internationale que parce qu'il craindrait quelque chose ou qu'il aurait quelque chose à cacher. Lorsqu'on évoque le fait que dans beaucoup de pays du monde, dans beaucoup de situations, les gouvernements refusent les enquêtes internationales, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que le fait de d'avoir quelque chose à cacher peut être vrai dans certaines situations. Je ne dis pas, moi, je ne suis pas ici l'avocat de gens mis en accusation pour ces crimes. Moi, je ne peux pas ici, en tant que... Parce que monsieur, vous demandez si j'étais membre du gouvernement. Non, je suis un ancien membre du gouvernement. Je suis la question, je suis vice-ministre honoraire, ancien vice-ministre des Affaires étrangères. La question m'intéresse, parce que ici on parle d'enquête internationale. Mais ce que je voulais dire, c'est que les États dans le monde refusent souvent, les États-Unis, les puissances occidentales en premier, des enquêtes internationales, parce que derrière les enquêtes internationales, il y a souvent des visées inavouées. Il y a parfois autre chose que la recherche de la vérité. Il y a parfois,
comme quoi, par
mais
exemple.
Il y a parfois des assignations purement politiques, purement orientées, des assignations parfois à caractère impérialiste qui sont assignées à ces missions. Vous pensez, s'il vous plaît, vous pensez que par exemple l'État d'Israël a plusieurs fois refusé des commissions d'enquête internationale simplement parce qu'il aurait des choses à cacher ? Non, parce qu'il y a parfois des visées politique.
Alors, Monsieur Kissombé,
et ça, il faut avoir l'honnêteté de l'avouer.
Monsieur
et
Kissombé,
en l'occurrence, pour la RDC, il faut avoir l'honnêteté de dire qu'une enquête internationale, dans le contexte politique qui est le nôtre, on ne peut pas prétendre. Vous savez ce qui... Vous pensez que...
Vous craignez que ça débouche des accusations contre le gouvernement,
mais,
par exemple ?
Non, mais évidemment, pas seulement, ou contre des gens qui ne sont pas... C'est une justice politique que nous craignons. Ça aussi, on a le droit. Moi, je le dis vraiment librement comme je
alors,
le pense.
Alors, M. Kissombe, les Nations Unies soupçonnent le gouvernement congolais d'avoir enquêté un peu trop vite. Et pour preuve, d'ailleurs, vous le savez, le procès des deux experts de l'ONU a débuté le lundi dernier. Sur fond de contestation, la défense dit pressentir une enquête bâclée en incriminant un élève et un coupeur de noix de palme.
Moi, je vais vous dire une chose. Il y a une espèce de machination sur le plan international pour discréditer totalement la justice congolaise. Et ça, c'est pour des visées politiques en réalité, impérialistes. Deuxièmement, monsieur, quand il dit tout à l'heure, monsieur Nsenga, il a dit quelque chose de très faux. La souveraineté, ce n'est pas un droit, c'est une responsabilité. Ben non, c'est faux. C'est d'abord un droit. Un droit, ça fait partie des droits des peuples. C'est, si les peuples ont le droit de s'autodéterminer, c'est pour être souverain, c'est pour être des nations souveraines. Ensuite, évidemment, si on parle de responsabilité, il faut reconnaître d'abord un droit. Parce que c'est le droit qui entraîne la responsabilité. Vous avez le droit de vous marier, eh bien, comme tous les autres droits, ça entraîne une responsabilité. Donc, dire que la souveraineté n'est pas un droit, c'est faux.
Merci.
Et puis deuxièmement, il y a un autre discours impérialiste.
C'est par là que vous allez
vous résumer. Un autre discours impérialiste qui consiste aujourd'hui à noyer toute notion de souveraineté pour les États africains.
Merci.
Et je termine juste un mot.
Très rapidement.
Et ce qui est curieux, c'est que, et vous devez comprendre une chose, l'intérêt pour les droits de l'homme est toujours à géométrie variable. Et quand l'intérêt pour les droits de l'homme quand l'intérêt pour les droits de l'homme n'est pas le même partout, c'est le signe qu'il y a des intérêts caché.
Merci. Jean-Maubert Senga, il y a pour vous cette réflexion qui nous vient de Kananga.
Corneille Moubabine à Kananga. Les Nations Unies ne peuvent pas s'imposer à la RDC, car la RDC est un pays indépendant. Mais ils doivent plutôt s'associer à la RDC pour que l'enquête soit fiable. Nous savons que la colère des Nations Unies est pour la mort des deux experts. Mais les Congolais qui les accompagnaient, pourquoi on ne parle pas d'eux?
Jean-Maubert Senga.
Oui, merci beaucoup pour la réaction de cet auditeur de Kananga. D'abord sur le cas des quatre Congolais qui accompagnaient les deux experts, il faut dire que nous, Amnesty International et d'autres organisations n'ont pas cessé de demander à ce que leur sort soit également fasse l'objet de l'attention de la justice. Malheureusement, j'étais personnellement à Kinshasa il y a 3 semaines. On a rencontré des magistrats militaires qui ont enquêté dans ce dossier. Ils ne peuvent même pas vous dire quels sont les noms des 3 motards qui étaient avec les experts congolais. Donc, ce n'est pas une question qui est oubliée. Il faut plutôt poser la question à la justice militaire congolaise. Pourquoi, justement, elle ne fait pas suffisamment attention au cas des 4 Congolais qui étaient accompagnés les deux membres du groupe d'experts et qui sont toujours portés disparus. Le porte-parole du gouvernement, lorsqu'on a trouvé les corps des deux experts vers la fin du mois de mars, il a annoncé que l'interprète M. Tuchintela avait été trouvé également. Eh bien, plus tard, il s'est avéré que cela n'était pas vrai. Que M. Tuchintela, comme les 3 autres motards, étaient également toujours portés disparus. Et parmi nos demandes, c'est également que une enquête, si elle se veut vraiment complète et crédible, elle puisse également enquêter sur ces 4 Congolais. Et d'ailleurs, nous sommes aussi étonnés de voir que la justice militaire a séparé les 2 dossiers. Donc, elle a enquêté sur l'exécution des 2 experts de l'ONU, mais elle n'a encore rien fait. Je dis encore parce que peut-être elle va le faire à l'avenir. Et en tout cas, elle a annoncé le 20 mai dernier qu'elle avait clôturé les enquêtes, mais elle n'avait pas encore fait quoi que ce soit sur les 4 Congolais.
Mais
sur l'imposition de l'ONU pour enquêter, etc., ce qui nous intéresse comme organisation des droits de l'homme, ce n'est pas la personne qui fait l'enquête. Si la justice congolaise peut faire des enquêtes crédibles, sérieuses, et établir la vérité, non pas seulement sur donner, comme vous disiez, un coupeur de noix de palme et un élève, mais vraiment aller au bout de la logique, regarder sur la chaîne de commandement, regarder d'éventuelles responsabilités au niveau...
Jean
Il n'y en a pas tant mieux, mais au moins avoir le courage d'aller jusque-là, oui.
Oui, Jean Maubert Senga, vous avez suivi, Monsieur Yves Kissombé, qui pense que la finalité de cette enquête internationale serait des visées politiques, impérialistes et hégémoniques.
Oui.
Je disais que vous me suivez? Jean Maubert Senga. Oui, je disais que en suivant Monsieur Yves Kissombé tout à l'heure, il pensait qu'en réalité la finalité de cette enquête internationale, c'est des visées politiques et impérialistes tout simplement.
Non, mais cela, moi je ne parle pas de politique, je parle des droits de l'homme. Nous parlons quand même de 500 à 1000 personnes, des Congolais qui ont été tués dans cette région-là. Nous parlons de plus d'un million de personnes qui sont aujourd'hui déplacées. Nous parlons de dizaines de milliers qui sont réfugiés en Angola dans des conditions exécrables, sans assistance. Nous parlons des villages entiers qui ont été rayés de la carte. Nous parlons de deux membres du groupe d'experts de l'ONU qui ont des familles, qui sont des personnes qui étaient au service des Nations Unies, dont la RDC est membre. Donc on ne parle pas de politique. Si la justice congolaise voulait être respecté, il devait enquêter sur ces morts, sur ces personnes-là et établir toutes les responsabilités. Donc nous, ce qui nous intéresse comme organisation de défense des droits de l'homme, ce n'est pas la personne qui fait l'enquête ou qui la dirige, c'est sa transparence, c'est sa crédibilité,
merci,
et sa capacité de faire en sorte que les responsables, qui qu'ils soient, puissent rendre des comptes.
Merci Jean Maubert Senga, maître Henri Wembolwa. Il y a pour vous cette réflexion qui nous vient de Boma dans la province du Congo central.
Jérémy Antoine Moubianji Kabongo, je vous appelle depuis Boma dans la province du Congo central. Voici mes questions. Pourquoi avoir l'ultimatum de l'ONU, le gouvernement était-il contre la collaboration dans les enquêtes et après l'accepter tout en souhaitant garder la direction? Faut-il parler encore de l'ingérence étrangers comme c'est une affaire congolaise? Comment un gouvernement responsable peut tirer les choses en longueur et pourtant il est question de vies humaines? À mon humble avis, le gouvernement veut cacher quelque chose. Avec ses derniers à la direction des enquêtes, la vérité sera partielle.
Maître Henri.
Oui, merci Monsieur Jérémy qui suit à partir de Boma. Ce que nous avons dit, d'abord j'aimerais préciser, quand je parlais d'international, ce n'est pas dit parce qu'il y a deux étrangers qui sont décédés en RDC, donc ça devient une affaire, une question internationale. J'ai dit par contre que dans la commission, par le fait qu'il y a des enquêteurs internationaux et étrangers, on peut parler d'international. Ça c'est une précision. Mais je voudrais revenir par rapport même à la réponse à la question des messieurs qui veut considérer qu'il y a eu des hésitations, de tergiversation de la part du gouvernement, parce que on a pris beaucoup de temps avant de permettre de faciliter ou d'ouvrir des enquêtes telles que c'était souhaité. Ça, c'est un élément important. Et c'est à ce niveau que moi je reviens pour dire que monsieur maître Yves Kissombé n'a pas totalement raison de dire que toujours quand on parle des droits de l'homme, il y a des visées politiques. Ce n'est pas du tout correct. Les droits de l'homme, c'est la dignité de toute personne. Mais il est aussi vrai que pour ceux qui sont dans le camp du pouvoir, ils considèrent les droits de l'homme comme un écueil. Dans la mesure où il appartient à l'État de protéger, de sécuriser les personnes, de faire le bien et le bonheur pour sa population et qu'il ne parvient pas à le faire. Dans cette mesure-là, les États, les responsables, les dirigeants des États se mettent dans une position de défense pour dire non, si nous l'avons pas fait, les autres ne doivent pas revendiquer, ne doivent pas critiquer cela. C'est ce qui fait un peu le problème. Même dans le cas actuel, il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance. Et notre gouvernement n'a pas été avec toute célérité pour mener des enquêtes. Et aujourd'hui, comme monsieur Senga vient de le dire, il y a beaucoup de victimes par rapport à ces événements. Donc ce qu'on voudrait, et ce que la communauté a comme désir, c'est de connaître toute la vérité. Parce qu'il y a l'universalité des droits de l'homme. Il ne faut pas être seulement congolais, mais lorsqu'on est un être humain, on a le droit de connaître tout ce qui se passe partout au monde. Et on peut même intervenir. Et
s'il est avéré qu'il y a eu des violations graves, eh bien, on peut prendre certaines mesures même pour poursuivre certaines personnes. N'oublions pas, par exemple, nous allons le rappeler ici, Hissène Habré, dans son propre pays, il a tué plusieurs personnes avec des cas de torture. Mais c'est 30 ans après que l'Union africaine s'est réunie, on crée même une commission pour s'occuper de le juger. Ici, c'est pour démontrer la solidarité entre les peuples. Nous devons l'encourager et nous ne devons pas trouver que c'est un mal. Et enfin, nous disons que, à propos de la crédibilité de l'institution, qu'il y ait les enquêteurs nationaux, internationaux, ce que nous souhaitons, c'est qu'ils aillent de l'avant et que le travail soit bien fait. Mais dans le cas contraire, même s'il y a complaisance, il est toujours possible, même les Nations Unies peuvent créer toute une commission avec des responsables internationaux pour faire le cas. Aujourd'hui ou plus tard, c'est toujours possible.
Alors, il y a Josué Kakule Mutseke de Butembo, Nord Kivu, qui dit le gouvernement a accepté de collaborer. Que devient le procès des présumés assassins qui s'est ouvert, Maître Henri Wimbolo?
Oui, le procès qui s'est ouvert, le procès, c'est vrai, il y a déjà, beaucoup d'entorses dans ce procès parce que comment nous sommes un état de droit? Chez nous, le droit, la protection de l'enfant ne voudrait pas que l'enfant se retrouve devant des juridictions telles que présentées. C'est déjà un problème. Et il faut arrêter avec pareille chose. Heureusement qu'il y a eu des exceptions qui ont été soulevées. Je sais que ces enfants seront peut-être mis à la disposition des juges pour enfants. Et les enquêtes sont nécessaires. Ce qui prouve vraiment que les enquêtes sont nécessaires. On a été pressés. Et pressés pourquoi? Parce que même les enfants des mineurs, on les met à la disposition des juridictions des adultes.
Kahiri Matembera de Kalemi, dans la province du Tanganyika, lui dit, le peuple congolais n'a plus confiance en ces deux institutions, c'est-à-dire le gouvernement et les Nations Unies, qui avaient pour mandat de protéger les civils. À mon avis, son avis, dit-il, elles seront les premiers coupables par une enquête crédible, peuvent être les premières innocentes par une enquête technique. Maître Henri Wimbolo.
Ah, une enquête technique qui...
Pour se disculper.
C'est une opinion. Pour nous, nous disons qu'il y a la présomption d'innocence et l'enquête, on la veut bien. Et l'enquête avec les enquêteurs étrangers, c'est aussi une bonne chose parce qu'il y a de la logistique, il y a aussi de la technicité qui va s'accompagner. C'est important. Et même, comme je le disais tantôt, s'il y a complaisance, nous sommes au moins sûrs que toujours et toujours, les Nations Unies peuvent décider de créer une commission, même une juridiction internationale, pour s'occuper des situations. Parce que qui dit 3000 personnes mortes, si cela est vrai d'après le rapport des Envol, moi je crois que c'est un génocide, il ne faut pas mâcher les mots.
Monsieur Yves, quelles sont mes conclusions parce que l'émission va se terminer.
Je crois que Monsieur Wembolo est juriste et il sait quels sont les critères pour parler de génocide, soyons quand même sérieux.
Mais en guise de conclusion.
Non, ce que moi je veux dire, c'est que les droits de l'homme ne concernent pas plus les ONG de défense des droits de l'homme que vous et moi, que le gouvernement. C'est l'affaire de tout le monde, les droits de l'homme. Et personne n'est mieux placé que les autres pour parler des droits de l'homme. Mais nous savons, moi je suis du côté des victimes de ces centaines de morts. Je suis de leur côté. Et être de leur côté, c'est aussi de dénoncer la manipulation. Merci. Dans l'exploitation des questions de droits de l'homme. L'intérêt. Merci. Pour les droits de l'homme, lorsqu'il n'est pas le même partout, c'est qu'il y a des choses cachées.
Merci. Jean-Maubert Singa, un mot en guise de conclusion.
Nous continuons à demander une enquête internationale. Nous espérons que le Conseil des droits de l'homme va la mettre en place. Et les autorités congolaises, c'est bien qu'elles fassent un pas en disant qu'elles voulaient collaborer et bien qu'elles aillent jusqu'au bout et qu'elles démontrent leur bonne foi à faire éclater la lumière et rendre la justice à toutes les victimes.
Maître Henri Wimbolo, conclusion.
Nous continuons à dire qu'il y a la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. On ne sait pas citer que c'est tel ou tel autre qui est responsable, qu'on laisse les enquêtes être menées dans toute indépendance et que les responsables puissent répondre. Et à ce niveau, nous disons aussi qu'on a besoin des mécanismes de justice transitionnelle dans un pays comme le nôtre et dans nos conditions les plus difficiles.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à Guima Tekeling Kouté, Berry Franklin Luchaka, Mimi Kindou qui était à la mise en onde, sous la supervision de Suzanne Zobo, Alain Hirong-Mouchige. J'ai coordonné et présenté cette émission. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.